Tout d'abord, les deux textes liturgiques de ce deuxième dimanche de carême. L'épître est tiré de Saint Paul aux Thessaloniciens. Mes frères, nous vous en prions, nous vous en supplions dans le Seigneur Jésus, pour accroître encore vos vraies richesses, marcher comme vous avez appris à nous, de nous qu'il faut marcher et plaire à Dieu. Vous savez bien quel précepte je vous ai donné par le Seigneur Jésus, la volonté de Dieu. C'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la fornication et que chacun de vous sache posséder le vase de son corps dans la sainteté et l'honneur, donc dans la passion et de la convoitise comme les païens qui ne connaissent pas Dieu et que personne en cette manière ne transgresse sa loi, ne circonvienne son frère. Car le Seigneur tire vengeance de tout cela comme nous vous en avons prévenu. Et comme nous vous l'avons attesté, car si Dieu nous a appelés par la foi, ce n'est pas pour l'impureté, mais pour la sanctification dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit sur une haute montagne. Et à l'écart, il fut transfiguré devant eux. Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses habits devinrent blancs comme la neige, et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre, alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore qu'une nuée lumineuse les couvrit, que de la nuée se fit entendre une voix qui disait, « Voilà, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le. » Et les disciples, en entendant ces paroles, tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous et ne craignez pas. » Levant alors les yeux, ils ne virent personne que le seul Jésus. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense, ne racontait à personne cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Veuillez vous asseoir. Alors, mercredi prochain, comme tous les mercredis, dans toujours le cours sur les actes du magistère, je conseille beaucoup à ceux qui ne peuvent pas assister au cours en personne ici, d'écouter le cours, de le travailler sur Internet. Encore une fois, la doctrine est quelque chose de très important. Pour les retraites, il y a beaucoup de changements, ça change tout le temps. Je demande à ceux qui veulent s'inscrire pour les retraites de faire attention. Si vous me téléphonez en me disant « je voudrais venir faire une retraite, je n'ai pas encore décidé laquelle », je vous passe un coup de téléphone, tant que vous n'avez pas téléphoné pour me dire « je viens à telle retraite, je ne vous inscris pas », parce que sinon c'est impossible. Donc actuellement, on a encore quelques places, donc là, il y a des changements, donc c'est la deuxième retraite qui est pleine, celle du mois de mai, et la deuxième de septembre est également pleine, toutes les autres j'ai encore une ou deux places. Donc n'attendez pas encore une fois le dernier moment pour vous inscrire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, cet évangile de la transfiguration est un évangile capital. En fait, c'est une exception, c'est fait partie de ces évangiles qui vont être répétés plusieurs fois au cours de l'année liturgique. En général, il y a un évangile différent pour chaque dimanche de l'année, mais là, on va le reprendre plusieurs fois, parce qu'il y a une fête spéciale propre, je crois que c'est au mois d'août, de la transfiguration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transfiguration? Les gens souvent mélangent les mots de transfiguration et transsubstantiation. Pendant la Sainte Messe, il y a transsubstantiation. Changement de substance. Il y a du pain, la substance du pain disparaît, et avec les paroles de la consécration, la substance du pain qui a disparu est remplacée par la substance du corps du Christ. Le vin disparaît, la substance du vin disparaît, remplacée par la substance du sang du Christ. Transsubstantiation. Ce n'est pas le cas du tout ici. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme avant la transfiguration. Et il est toujours Dieu et homme après la transfiguration. Donc c'est un changement d'apparence. Bien comprendre les choses. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est visible. Était visible au temps des apôtres, avec son corps. Tout le monde pouvait voir son corps. Mais il cachait sa divinité. Sa divinité pouvait être aperçue en quelque sorte, détectée notamment par ses miracles, par l'accomplissement des prophéties. Et là, il va prendre avec lui Simplement trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, les apôtres préférés. Et devant eux, il va dévoiler une toute petite partie de sa divinité. Alors des fidèles nous disent, mais vous savez, c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Étant Dieu, il aurait dû être transfiguré tout le temps. Il aurait dû éclater de lumière, de cette lumière divine tout le temps. Mais il cache sa divinité. Il cache sa divinité parce que nul ne peut voir Dieu ici-bas sans mourir. Alors, c'était déjà difficile pour les apôtres, sachant que c'est encore plus difficile pour nous, parce que les apôtres, ils voyaient au moins l'humanité de notre Seigneur. Nous, on voit ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. On ne voit ni l'humanité ni notre Seigneur, ni sa divinité. Alors, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être transfiguré à cette époque, dire pratiquement à l'arrivée de la Passion, on est au début du carême? Eh bien, tout simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait tout, il est Dieu, sait que la Passion arrive. Et durant la Passion, s'il est un moment de la vie de notre Seigneur sur la terre où sa divinité semble disparaître, c'est bien la Passion. Puisque qu'est-ce que vont voir les apôtres pendant la Passion? Eh bien, ils vont voir l'humanité souffrante de notre Seigneur. Et c'est ce que les Juifs avaient tellement de mal à comprendre. Ils acceptaient l'humanité de notre Seigneur d'une certaine façon, mais ils voyaient tout de suite une humanité glorieuse. Notre Seigneur Jésus-Christ était pour la plupart des Juifs, le Messie, c'était celui qui allait rétablir le royaume d'Israël, qui allait mettre les Romains dehors. Ils ne comprenaient pas que notre Seigneur Jésus-Christ va nous sauver par le sacrifice de son humanité souffrante. Il va supporter la Passion. Et c'est pour cela qu'il va se dévoiler une petite partie de sa divinité au début de la Passion, au début du carême, pour bien rappeler aux fidèles et surtout aux apôtres, attention, je vais être condamné par les Juifs. Je vais être flagellé, je vais être couronné d'épines. On va me crucifier et je vais mourir comme le dernier des esclaves. Rappelez-vous que je suis Dieu. Et pour le leur rappeler, il dévoile une toute petite partie de sa divinité. Vous voyez? Et lorsque nous assistons à la Sainte Messe, mes bien chers frères, il faut avec la foi, en quelque sorte, que nous aussi nous dévoilions cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce serait magnifique si notre Seigneur Jésus-Christ pouvait dévoiler cette divinité pour chacun d'entre nous à chaque messe. Mais il a voulu que nous assistions à la messe avec la foi. Cette divinité, nous la verrons au ciel, c'est pour ça qu'au ciel, plus besoin de foi, plus besoin d'espérance. Plus besoin de foi parce que nous verrons notre Seigneur, plus besoin d'espérance parce que nous l'aurons, nous le posséderons, il y aura encore la charité. Vous voyez? Alors, il y a d'autres éléments qui sont expliqués par les pères de l'Église. Le premier point, le plus important, c'est celui-là que notre Seigneur Jésus-Christ donc va dévoiler son humanité, sa divinité pendant cette transfiguration pour bien montrer sa double nature. Les pères disent aussi que pendant cette transfiguration, notre Seigneur va aussi dévoiler la Sainte Trinité. Pour cela qu'on entend une voix du ciel, le Père, Dieu le Père qui va parler, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. C'est la même voix, les mêmes paroles qui vont être prononcées, qui ont été prononcées aussi le jour du baptême de notre Seigneur au Jourdain. Lorsque Saint Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur, il y a la même voix qui dit la même chose. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Et dans d'autres textes parallèles, il y a même une colombe qui vient voltiger sur la tête de notre Seigneur. Donc on voit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, une image de la Sainte Trinité. Les pères disent aussi qu'il y a une autre image de la Sainte Trinité qui est représentée par les trois choses, l'évangile, les prophéties, la loi. L'évangile, notre Seigneur, les prophéties, Élie, la loi, Moïse. C'est aussi un symbole de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Alors, mes bien chers frères, essayons d'aller un petit peu plus loin. Les pères expliquent aussi que cette transfiguration représente une chose magnifique. Cette transfiguration qui frappe tellement les apôtres, on le voit, ils sont tellement estomaqués par cette beauté de la divinité de notre Seigneur, et ils n'ont vu qu'une toute petite partie de sa beauté. Donc l'évangile nous dit que le visage de notre Seigneur Jésus-Christ va devenir brillant comme le soleil, ses vêtements vont devenir blancs comme la neige. Eh bien, les pères expliquent que cette transfiguration représente aussi la transfiguration de notre âme. Il y a le passage d'une âme en état de péché mortel à une âme en état de grâce. Donc c'est exactement la même chose. Il faut comprendre ce qui se passe au confessionnal. On a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là à cause d'un manque de foi. Notre Seigneur Jésus-Christ qui cache sa divinité, c'est une âme qui est en état de représente d'une certaine façon, c'est une comparaison, l'âme qui se met à genoux au pied du représentant du Christ, au pied du prêtre, disant, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Cette âme est toute sale, toute abîmée par le péché. Et si cette personne se confesse avec la contrition, l'accusation et la promesse de réparation, eh bien, il va y avoir une espèce d'explosion dans l'âme, d'explosion de beauté, de gloire, et toute la laideur de l'âme d'un seul coup va disparaître, et c'est la charité qui va éclater. La charité qui va éclater. Et donc, cette transfiguration représente le passage d'une âme en état de grâce à une âme en état de péché mortel. D'une âme, pardon, en état de péché mortel qui passe à l'état de grâce. On a énormément de mal à comprendre ces choses-là. Vous voyez? Alors, il faut réaliser la grandeur du sacrement de pénitence. La grandeur du sacrement de pénitence, justement, qui va transfigurer une âme et qui est toute sale. Imaginez, on peut prendre des comparaisons pour nous aider à comprendre. Imaginez un miroir. Il y a un beau miroir dans votre, vous l'avez laissé au grenier pendant des années et des années. Et puis c'est couvert de poussière. Une poussière épaisse sur le miroir, il y a des toiles d'araignée sur le miroir. Vous regardez le miroir, vous voyez plus rien. Le miroir ne reflète plus rien. Pourtant, le miroir est toujours là, attention. Le pouvoir du miroir, le pouvoir de réflexion du miroir existe toujours, attention. Donc il y a une puissance de ce miroir de nouveau être utilisable pour refléter la personne, l'image de la personne qui se regarde dedans. Et cette puissance ne demande qu'une seule chose, c'est à passer à l'acte. Prenez ce miroir qui est couvert de poussière, qui ne sert plus à rien parce qu'on ne voit plus, on voit plus la réflexion de notre image sur le miroir. Et puis vous prenez un chiffon en poussière, vous nettoyez le miroir complètement, vous regardez dans le miroir et de nouveau, votre image va apparaître dans le miroir. Et même si ce miroir est resté pendant des années et des années couvert de poussière, la luminosité de ce miroir nettoyé ne va pas bouger, ne va pas être changée. Et même si le miroir de votre âme est resté dans le péché pendant des années et des années couvert de poussière, si par la confession, l'absolution du prêtre, je t'absous tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette poussière est enlevée, eh bien on retrouve la même beauté d'âme. Même beauté d'âme. Et c'est quelque chose d'important à comprendre. Notre âme a une puissance à la gloire. Notre âme est créée par Dieu comme substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu, dit Saint Pédis. Donc notre âme est créée pour voir Dieu. Et même si l'âme est détruite par le péché, l'âme baptisée est détruite par le péché, à partir du moment où cette âme est baptisée, elle a le caractère du baptême, elle garde cette puissance à devenir le temple du Saint-Esprit. Hélas, par le péché, on détruit tout, on casse tout. Vous voyez comme ces choses sont importantes. Une deuxième comparaison qu'on peut prendre, ce sont des comparaisons. Cette comparaison n'est pas raison, mais c'est pour aider à comprendre. Imaginez que vous avez une pièce magnifique dans un château, avec des dorures extraordinaires, des boiseries extraordinaires, d'une très grande beauté, très grande richesse, des tapis somptueux, etc. Et puis, on ferme complètement les volets de façon totale. On ne voit plus rien dans la pièce. Vous rentrez dans cette pièce, on ne voit plus rien, parce que tout est noir, parce que les volets sont fermés. Et bien d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Peut-être après avoir conservé cette pièce dans l'obscurité la plus complète pendant des années et des années, on ouvre les volets. Et de nouveau, la beauté de la pièce va apparaître. Et le fait que vous ayez fermé les volets de cette pièce pendant des années et des années ne change rien à la beauté de la pièce. La beauté est là, ne demande qu'une seule chose, se révéler. J'aime oublier ça pour notre âme. Une âme en état de péché mortel, c'est une catastrophe. Mais cette âme conserve en elle-même le pouvoir, la puissance à la gloire. En philosophie, on parle d'une puissance obédientielle à la grâce. Il suffit de savoir se mettre à genoux et avec humilité prononcer cette petite phrase magique « Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. » Et si je regrette mes péchés, si j'accuse mes péchés sans en cacher volontairement, hein, si je suis prêt à réparer, le bon Dieu pardonne. Le bon Dieu pardonne. Et la miséricorde du bon Dieu, une fois de plus, éclate. Et comme toutes ces choses, mes bien chers frères sont importantes. Autre point important, phrase splendide. Lorsque Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean voient cette divinité, notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont complètement paniqués. Ils tombent la face contre terre, ils n'osent même pas regarder. Mais en même temps, ils ont cette joie extraordinaire dans leur âme. Il est bon pour nous d'être ici. Voyez, comme je voudrais que tous nos chers paroissiens qui viennent ici à la messe ce dimanche, au moment où ils rentrent dans la chapelle, qu'ils puissent dire cette parole. Il est bon pour moi d'être ici. Il est bon pour moi de m'agenouiller devant le Saint-Sacrement. On s'agenouille devant le tabernacle, on fait sa génuflexion, on s'agenouille devant le tabernacle et on adore notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut répéter cette phrase. Il est bon pour moi d'être ici. C'est une comparaison très moderne que j'utilise souvent, mais c'est pour aider à comprendre. C'est comme quelqu'un qui est en train de tomber en panne sèche sur l'autoroute et puis il attend la station-service parce que sinon il va devoir arrêter la voiture, il ne va plus pouvoir terminer son voyage, qui n'a presque plus de carburant dans le réservoir. Et puis la station-service arrive, il s'arrête pour faire le plein. Donc il faut pouvoir dire, il est bon pour moi d'être ici. Alors posez-vous cette question, est-ce que à chaque fois que je rentre dans la chapelle, je prononce cette parole ? Il est bon pour moi d'être ici. Il est bon pour moi de nourrir mon âme du corps, du sang, de l'âme et la divinité. Vous voyez, cet amour de la messe est quelque chose de capital. Et je pense, quand on étudie un petit peu ce qui s'est passé autour des années 60, c'est ça qui manquait. L'amour de la messe avait disparu. La plupart des jeunes, surtout de ma génération, la plupart des jeunes de ma génération, j'avais une douzaine d'années au moment du Concile Vatican II, eh bien, la plupart des jeunes de ma génération n'avaient pas cet amour de la messe. Ils allaient à la messe le dimanche, par obligation, par triste obligation. Vous voyez ? Imaginez, c'est une comparaison, encore une comparaison, on va donner beaucoup de comparaisons pour aider les gens à comprendre. Imaginez un homme qui prétend aimer sa femme et qui ne dise à sa femme « je t'aime » que par obligation. La fille m'a dit qu'il fallait que je dise à ma femme que je l'aimais. Bon, je lui dis tous les matins. Et pour être sûr que je n'oublie pas, je lui dis trois fois ça le matin au petit déjeuner, comme ça après j'ai la paix pour la journée. Et je ne suis plus obligé de la répéter. Quelque chose qui ne va pas. Et imaginez quelqu'un, et c'est ça qui était terrible autour des années 60. On voyait très bien ces jeunes qui allaient à la messe. Ils y allaient par obligation. Par obligation. Et on le voit, nous, on voit très bien comme prêtre, on voit tout de suite les gens qui assistent à la messe par obligation et les gens qui assistent à la messe par amour pour le bon Dieu. Et je vous félicite parce que bien sûr que ça se voit en tant que prêtre, on le voit, lire dans les âmes. Ça va simplement par la tenue des gens. Combien de fois j'ai vu ça quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis? Tous ces jeunes qui venaient à la messe, ils s'installaient et puis regardaient leur montre au bout de 5 minutes. Oui. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font ici, ces gens-là? Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Donc demandez cette grâce à la Sainte Vierge. Que vous puissiez vraiment dire, à chaque fois que vous venez à la Sainte Messe, que vous puissiez vraiment dire, il est bon pour moi d'être ici. Et je vous assure, une fois qu'on a compris ça, et qu'on, je dirais, on attend littéralement ce dimanche pour pouvoir assister à la Messe, qu'on attend le fait de pouvoir venir devant notre Seigneur Jésus-Christ, ça change tout dans une âme. Parce qu'à ce moment-là, cela va vous donner cette joie extraordinaire d'être des enfants de Dieu. Surtout si vous avez pu vous confesser avant la messe, il y a la confession, la communion, la sainte messe, il y a tout ça est uni pour nous donner cette joie extraordinaire que Dieu seul peut donner. Je comprends qu'un protestant soit triste. Comment voulez-vous qu'un protestant ne soit pas triste? Imaginez les protestants, c'est terrible chez les protestants. Ils ont un sac à dos, Dans un sac à dos, il y a 40 kilos de péché, par exemple. Alors, est-ce qu'ils peuvent aller accuser leur péché confessionnel? Ben non, ils n'ont pas de confession. Ils ne croient pas au sacrement de pénitence. Ils ne croient même pas au sacerdoce. Est-ce qu'ils peuvent venir à la Sainte Messe et dire « Il est bon pour moi d'être ici? » Mais non, ils n'ont pas la messe. Ils disent « Ah mais notre Seigneur Jésus-Christ va couvrir mes péchés de son sang. » Ça vous fait une belle jambe. Vous arrivez aux 40 kilos de pierre dans le sac à dos, et je dis « Voilà, je couvre vos péchés avec la peinture rouge, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, allez en paix, continuez de porter vos 40 kilos de péché. » C'est pas comme ça pour nous. Lorsque vous vous agenouillez, que vous dites « Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. » Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il prend le sac à dos et il jette les pierres. Les 40 kilos ont disparu. Alors, ne vous empressez pas de recharger votre sac à dos de péché, bien sûr que non. Mais les pierres ont disparu. Rappelez-vous, le Saint Curé d'Ars, j'ai souvent cité cet exemple magnifique, qui un jour, à la visite d'un protestant anglais, et il savait qu'il était protestant, donc il va le voir, il lui prend les mains comme ça, pauvre protestant. Vous n'avez ni la Sainte Messe, ni la Confession, ni la Sainte Vierge. Nous, on a tout ça. Vous voyez donc, d'où l'importance de pouvoir vraiment dire cette phrase, il est bon pour moi d'être ici. Dites-le à chaque fois que vous rentrez dans cette chapelle. Même si la chapelle est petite, même s'il n'y a pas beaucoup de place, bon, en principe, on devrait, j'espère, arriver à avoir la nouvelle chapelle. Je pense j'espère avant l'été, donc les choses sont en train de se finaliser actuellement pour les différents devis, les différents travaux qui vont bientôt commencer. Mais vous voyez, il faut ça. Il faut vraiment rentrer à la chapelle en se mettant à genoux. Et je suis auprès du bon Dieu. Et il faut vraiment considérer la chapelle comme un bout de paradis. C'est pour ça que les saints vont jusqu'à dire qu'une âme en état de grâce, c'est un bout de paradis. Rappelez-vous les anciens qui avaient l'habitude de faire la prière du soir en famille devant le berceau du nouveau-né. Dans le berceau du nouveau-né. Mais tous à genoux autour du berceau. Parce que l'enfant a été baptisé, c'est un sacrement dans la maison. Bien, vous avez le Saint-Sacrement dans la maison si vous êtes en état de grâce. Le dernier point sur lequel je crois qu'il faut insister, c'est la phrase de notre Seigneur. Notre Seigneur voit la panique des apôtres, les disciples entendent ces paroles de Dieu le Père, ils tombent la face contre terre, ils sont saisis d'une grande frayeur, et Jésus s'approchant les touchant leur dit, levez-vous, ne craignez pas. Si nous aussi, nous sommes pleins de crainte devant notre Seigneur Jésus-Christ à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, à cause de nos manquements constamment, à cause du fait qu'on retombe trop souvent dans les mêmes péchés, il faut écouter cette parole de notre Seigneur, ne craignez pas. Ne craignez pas parce que vous avez la possibilité de vous confesser. Ne craignez pas parce que vous allez pouvoir recharger les batteries spirituelles de votre âme par la confession, par la Sainte Communion. Ne craignez pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix. Mort pour chacun d'entre nous sur la croix. Il faut y croire. Vous voyez, encore une fois, je comprends que les gens modernes soient dans la tristesse tout le temps. Moi, ce qui me frappe le plus dans le monde moderne, c'est la tristesse des gens qu'on rencontre. Parce qu'ils ont perdu le bon Dieu. Vous et moi, avec la grâce du bon Dieu, nous avons conservé la foi. Pourquoi? Pourquoi? Il faut souvent se poser cette question. Pourquoi et comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il permis que je garde la foi alors que tant de gens autour de moi l'ont perdu cette foi? Pourquoi est-ce que j'ai conservé la foi? Pourquoi est-ce que les gens, certaines personnes, reçoivent des grâces toutes particulières du bon Dieu? Encore eu hier la visite de personnes de Toulouse qui sont venues me voir, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et puis, aller savoir comment, ils sont tombés une fois sur le site dame-marie-marie.net et puis ils ont commencé à écouter les conférences. Et puis ils ont compris, d'un seul coup, ils ont tout compris. Ils arrivent ici, ils comprennent tout, ils comprennent que, eh bien, qu'ils se sont fait rouler, qu'on leur a caché la vérité. Ils comprennent ça d'un seul coup. Et ils téléphonent sur l'abbé. On sait que la vérité, c'est là. Est-ce que vous pouvez écouter notre confession générale? Bien sûr, j'ai écouté la confession générale. Vous voyez? C'est des grâces qu'ils reçoivent. Pourquoi ces gens-là ont reçu des grâces, ces deux personnes ont reçu la grâce, alors qu'il y a tellement de monde à Toulouse qui ne recevront jamais ces grâces-là? Pourquoi? Parce que Dieu aime d'une façon toute spéciale certaines personnes. On le voit dans l'évangile du jour. Il prend Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Pourquoi pas les autres? Vous croyez que les autres apôtres, ils n'auraient pas profité aussi de ce dévoilement de la partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'eux aussi n'auraient pas apprécié de pouvoir être au sommet du Tabor avec Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean et de voir cette scène extraordinaire? Non, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean seulement. Parce que chacun est différent. Les autres vont recevoir aussi d'autres grâces, mais pas celle-là. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons ces grâces de lumière. Surtout cette. Je pense que la grâce n'est pas simplement cette joie extraordinaire que Dieu seul peut donner, mais cette confiance en lui. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous savons que non seulement notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous sur la croix, mais qui renouvelle sa passion à chaque messe. La messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, donc vous réassistez littéralement à la passion de notre Seigneur. Et lorsque j'élèverai la Sainte Hostie tout à l'heure, dans quelques minutes pour la transubstantiation, lorsque j'élèverai le calice qui contient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, regardez ce calice avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez cette hostie consacrée et dites au bon Dieu la même phrase. Il est bon pour moi d'être ici. Il est bon pour moi d'être ici. Et vous adorez notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le remerciez pour toutes les grâces qu'il vous a données, la grâce de la foi. Et vous lui demandez la grâce de pouvoir rester en état de grâce pendant toute la semaine. Voilà ce qu'il faut faire. Donc la messe, c'est aussi la transsubstantiation. C'est plus que la transsubstantiation, c'est aussi, bien sûr, la transfiguration de notre Seigneur. Même si nous, on ne voit pas la divinité. Vous le savez par votre foi, Dieu est là. Son corps, son sang, son âme, sa divinité. Alors demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.